Vous écoutez
RMC.
C'est toujours les mêmes gestes.
RMC.
D'abord la jambe gauche. Toujours. Chaussettes, chaussures.
9h midi.
On est là, tous ensemble, des ballons sur le sol, des regards qui se croisent.
Les grandes gueules du sport.
J'aime ces moments-là.
Jean-Christophe Drouet.
Et ouais, bonjour à tous, c'est Jean-Christophe Drouet pour les grandes gueules. Non, je fais très mal Zidane. Les grandes gueules du sport, votre émission en direct le samedi, le dimanche de 9h à midi. On est très heureux d'être avec vous comme chaque week-end. Et merci infiniment de votre fidélité au sommaire aujourd'hui. Alors vraiment, on a beaucoup de choses à vous raconter. Tout d'abord, la succession, forcément, pour le poste de sélectionneur de l'équipe de France. Elle est ouverte, cette succession. Le candidat naturel pour prendre la place de Didier Deschamps, Zinedine Zidane. Serait-ce un cadeau empoisonné? C'est la une des GG dans quelques instants. 10h. Ils sont inarrêtables, les Marseillais n'en finissent plus de gagner et de se rapprocher du Paris Saint-Germain. Le titre est juste un fantasme, ce sera le bras de fer. À 11h, c'est la rentrée médiatique de Julien Alaphilippe cette semaine avec sa nouvelle équipe. Le double champion du monde français est-il encore capable de gagner des grandes courses? Vous avez trois débats, mais évidemment, il y en aura beaucoup d'autres dans cette émission. Les grandes gueules du sport, je vous les présente. Une grande gueule qui comme Zidane. Ben oui, Zidane, forcément. Ah. Une grande gueule qui comme Zidane. On se demande vraiment ce qu'il fout depuis 4 ans. Christophe Cessieux, salut Christophe.
Il est là, il attend patiemment dans l'ombre de prendre la place du sélectionneur en place. Et il pense que son heure va enfin arriver.
C'est possible. Et peut-être pas jusqu'en 2026, tu vois. Donc reste bien tapis dans l'ombre. Ça va, mon Christophe?
Ça va, ça va.
Bon,
bonne forme.
Très heureux de te retrouver comme chaque week-end. Une grande gueule qui comme Zidane, ça fait longtemps qu'il n'a pas fait un dégradé. Jérôme Pinault, salut Jérôme.
Je m'en doutais que tu allais venir là-dessus. Tu vois, je cherchais le seul point commun que je pouvais avoir avec lui, c'est les cheveux.
Bon, il en avait plein, mais je trouve que tu as un petit côté zizou.
Ah ouais. Ça va très bien. Bonne année à tous. Hein.
Bonne année à tous. On peut te souhaiter quoi pour beaucoup de ventes de vélos?
Ouais, du bonheur. Du bonheur dans la vie.
Arrête, beaucoup de ventes de vélos, arrête avec le bonheur. Ah,
ça serait bien d'ailleurs, ça serait bien que ça reparte.
Voilà,
un peu, tout ça.
On est d'accord, un petit peu d'argent ne fait jamais de mal.
Oh,
une
non.
Grande gueule qui, comme Zidane, il attend qu'on l'appelle. Pascal Dupraz, salut Pascal.
Salut Jean-Christophe, salut les amis.
Ça va, mon cher Pascal?
Salut Pascal.
Je suis en pleine forme,
Mais je l'entends au son de ta voix. Je sens que tu as envie de te chicoter tout de suite avec Christophe Cessieux. Ce sera dans quelques instants.
Ah bon?
Évidemment. Oui, oui, comme d'habitude. Et puis une grande gueule qui, comme Zidane, lui aussi, il attend qu'on l'appelle. Simon Dutin, salut Simon.
Salut JC, salut tout le monde, tu t'es pas foulé. Je pensais que tu allais comparer ma première touche de balle sur le terrain à celle de Zizou.
Mais c'était possible, mais peu d'auditeurs t'ont déjà vu jouer au foot.
Non, mais bon, ça aurait été une belle promotion. Mais bon.
Oui, mais bon, ça aurait été trop sympa aussi. Et tu me connais, c'est quoi, c'est pas vrai, mon rôle dans cette émission. Ça va? On te souhaite quoi, Simon, pour cette nouvelle année?
Je sais pas, plus de victoires en débat contre Christophe Cessieux.
Voilà, hein. Mais ça devrait pas être trop difficile quand même.
Il ose jamais se frotter à moi, de toute façon, Simon. Il évite les émissions.
Mais c'est pour ça que je vous ai mis ensemble, pour voir ce que ça donne, évidemment, les copains. On va faire une grande émission, et je le disais, on a beaucoup de choses à vous raconter. Et tout d'abord, les directs en cours. Forcément, c'est la première journée de l'Open d'Australie. Ça s'est déroulé et ça continue cette nuit, heure française. On retrouve en direct de Melbourne Eric Salio. Bonjour Eric.
Salut les grandes gueules.
On va te retrouver tout au long de cette émission. Il y a un Français sur les cours, là, actuellement.
Ouais, il y a un Français, c'est Hugo Gaston. Alors c'est drôle de premier tour pour Hugo Gaston parce qu'il a commencé à 11h. À midi, il y a eu des orages terribles et donc ça a repris il y a environ une heure. Il était à 1-7 partout face à une wildcard australienne, Jessica, 6-2, 3-6 et 2-1 au troisième pour Hugo Gaston. Et les résultats de la nuit sont très légers. Il y a une victoire, une défaite. Une victoire pour Arthur Fils et une défaite pour Diane Paris.
Parfait, on parlera tout à l'heure d'Arthur Fils. Merci beaucoup Eric Salio, tu restes avec nous tout au long de cette émission. On parlera aussi à 10h30 de Yannick Sinner. On va débuter les grandes gueules du sport aujourd'hui avec ce proverbe russe qui dit « Le petit cadeau va où il espère trouver le grand cadeau ».
RMC,
la une des grandes gueules du sport.
Et quel est ton nom ?
Zidane !
Après Rocky 4 et Rambo 3, Jésus 2, le retour.
La France entière veut que ce soit Zidane. À partir du moment où Zidane dit « je veux », c'est lui qui doit prendre les bleus. L'histoire, elle est écrite.
Soudain, le miracle s'accomplit.
C'est parti, la Paneka ! Quel incroyable geste signé Zinedine Zidane.
50% homme.
Moi, j'ai rien sollicité du tout.
50% Dieu.
Bien évidemment qu'on espère tous qu'après 2026, ce sera lui.
100% sauveur.
On attend bien Zidane. Zinedine va pouvoir reprendre la sélection.
Jésus 2, le retour.
Et si vous voulez parler d'autre chose ?
Zinedine Zidane.
L'annonce surprise du départ de Didier Deschamps à la tête de l'équipe de France a immédiatement entraîné une question, même si la réponse paraît évidente, vous l'avez bien compris. Qui maintenant pour lui succéder après le Mondial 2026? Un nom arrive en tête de liste, tout en haut de la pile, très loin devant les autres. Zinedine Zidane, l'idole française, est libre. Il attend même depuis 4 ans que le poste se libère. Pas simple tout de même de passer après Didier Deschamps, le plus grand palmarès du football français, et qui vient de faire et qui vient de signer 2 finales de Coupe du Monde de suite, en attendant évidemment 2026. La musique qui fout les jetons est cette question. Le poste de sélectionneur des Bleus après Deschamps, est-ce que c'est un cadeau empoisonné? Oui ou non, Christophe Cessieux?
Oh que oui.
Pascal Duprat?
Oh que non, si c'est Zidane.
Jérôme Pinault?
Oui.
Simon Dutin?
Non.
J'adore commencer par de oui, de non. Avant de vous écouter, écoutons les entraîneurs de Ligue 1 qui ont réagi évidemment toute la semaine. On va commencer avec Bruno Genesio et Franck Haise, 2 entraîneurs français. Pour eux, évidemment, Zidane, c'est l'élu.
Pour la suite, je pense qu'il y a une vraie évidence. Moi, je la partage. Que Zinedine Zidane soit, en 2026, le futur sélectionneur de l'équipe de France, je pense que ça a beaucoup de sens. Et moi, je suis son supporter pour qu'il devienne, après Didier, l'entraîneur de l'équipe de France.
Il y a quelqu'un qui est taillé sur mesure. Et c'est même ce que je souhaite, parce que ça serait parfait. Zizou, la seule expérience qu'il a eue comme entraîneur, il a gagné 3 Champions League de suite. Entre autres, quand vous savez la difficulté déjà d'en gagner une dans toute une carrière, je suis bien passé pour le savoir. Ou un titre même, ne serait-ce qu'un titre, vous pouvez imaginer ce que ça représente. Donc c'est pour ça que, pour moi, il n'y a pas de discussion.
Il n'y a pas de discussion, évidemment. C'est un nom attendu, tout le monde en rêve, de Zinedine Zidane à la tête des Bleus. Mais est-ce que ce serait un cadeau empoisonné? C'est notre débat, le 32-16, le hashtag RMC Live, l'application RMC Direct Studio. Attention, les GG, Roland Courbis vous écoute en régie et il viendra dans une dizaine de minutes pour vous reprendre à la volée, si c'est nécessaire, évidemment. Christophe Cessieux, pourquoi oui? Pourquoi c'est un cadeau empoisonné?
Rien qu'à écouter ce que les gens disent de Zidane. C'est-à-dire, il est attendu comme le Messie. Et que doit faire un Messie? Il doit permettre d'ouvrir l'océan en deux. Il doit permettre de devenir champion du monde éternellement. Il doit permettre de transformer des joueurs moyens en stars du ballon. Voilà ce qu'on attend Zidane. Voilà ce qu'il va devoir faire dans les mois à venir. Imaginez un peu la tâche qu'il attend. Mais oui, mais quand on est un génie, quand on est une légende vivante comme lui, on ne peut que faire ça. Et c'est pour ça que je dis que c'est un cadeau empoisonné, parce que il y a d'un côté la légende et de l'autre côté il va y avoir la réalité. Et la réalité, c'est qu'un sélectionneur ne fait pas gagner une équipe à lui tout seul. Il lui faut des stars. Je veux dire, Hidalgo a eu Platini, Tigana, Giresse avec lui. Jacquet a eu Zidane. Deschamps a eu Mbappé. Et qui va avoir Zidane pour transformer...
Mbappé, il s'arrête?
Non, il va continuer. Ça aurait été, il y aurait eu moins de pression si ça avait été Pascal Duprat, par exemple, sélectionneur de l'équipe de France. On n'aurait pas attendu qu'il ouvre l'océan en deux, quand même. Donc voilà. Non, c'est pour ça que je dis que ça va être compliqué. Je lui souhaite évidemment toute la réussite totale. Moi aussi, comme tous les Français, je suis un fan de Zizou. Mais voilà.
Mais tout Zizou qu'il est, c'est pas facile
Zizou qu'il
de
est, et en fait, il va devoir se frotter à la réalité. Alors je pense qu'il sera pas critiqué dans un premier temps. Il va avoir du temps, parce que c'est une icône, mais au bout d'un moment, on va lui demander autant qu'aux autres. Et succéder à un gars comme Deschamps qui a tout gagné, c'est pas facile du tout. Voilà, donc voilà pourquoi je pense que c'est un cadeau empoisonné, un cadeau dont il veut bien, hein. Attention. Hein.
Ok, il veut répondre tout de suite. Simon Dutin.
Ah, je suis pas déçu de faire mon retour, là. Disons que ça... Si le cadeau empoisonné, c'est juste de se dire on n'est pas sûr que ça marche. Bon, oui, certes, moi j'ai pas la boule de cristal de Christophe Cessieux, donc en effet, on n'a pas tout Zidane.
C'est pas
la garantie que ça va marcher.
C'est pas la garantie que ça va marcher, c'est la garantie qu'on attend tellement de lui.
Tu vas offrir au public français, à tous les gens qui aiment le foot et même ceux qui s'y intéressent, que ceux qui le désirent le plus.
Ouais,
on va voir. Quand tu offres à quelqu'un ce qu'il désire le plus, tu lui fais un cadeau empoisonné. Tu vas offrir au mec qui va s'asseoir sur le banc ce qu'il désire le plus. Mais là, tu lui offres le plus et c'est un cadeau empoisonné. Donc tu vas avoir les deux parties qui sont satisfaites. Évidemment, à la Fédération Française de Football, on a l'instinct de survie, on n'est pas fou. Tu t'attires évidemment 1000 fois plus de problèmes, 1000 fois plus de questionnements médiatiques, de polémiques, si tu prends pas Zidane. Voilà, parce que c'est pas comme si on s'étouffait avec les candidats crédibles pour le poste, quoi. Tu prends pas Zidane, tu vas
juste. Il y en a quand même, Simon.
Tu vas dire oui, Bruno Genesio, exceptionnel travail avec Lille. Tu vas dire Franck Haise, une méthode un petit peu novatrice du côté de Nice. Mais enfin, qui va acheter ça alors que Zidane n'a pas de club et
non, mais je parle
cadeau empoisonné pour lui. Pour lui, pas pour lui. Mais on parle pas pour lui. Cadeau empoisonné, éventuellement.
C'est comme si toi, tu devais succéder à Jean-Christophe Drouet, ce sera un cadeau empoisonné.
Je vous vois arriver, bon, pas sûr, mais je vous vois arriver avec le côté, oui, l'image, le mythe qui pourrait être écorné. Bon, ben, le mec, de toute façon, tu crois que ça va effacer quoi? Son ballon d'or, ses dribbles, son doublé en finale de Coupe du Monde, les souvenirs qu'il a laissés, le mythe, les trois Ligues des Champions qu'il a gagné avec le Real. Il est à une altitude où tu ne peux plus l'atteindre. C'est terminé.
Il appartient.
C'était 4 Platini,
c'est un intouchable. Le mec, il est sélectionneur d'équipe de France. Il peut réussir pendant 10 ans sans gagner un titre. Il sera intouchable.
Mais arrête. Même pas.
Tu crois qu'après 3 défaites, il pourra plus aller?
Non, je te dis qu'il aura plus de temps. Il aura plus de temps qu'un autre, mais il va être confronté à la réalité du terrain, à la réalité
de sa vie. Il y a une
réalité.
Bien sûr qu'il le sait, mais ça va sans doute être plus compliqué pour lui parce qu'il a un tel statut tellement attendu par les autres qu'il ne peut pas se rater, quoi. Il n'a pas le droit.
Tu crois que relever le gant du Real Madrid quand il est à la Castilla, le Real Madrid, quel plus grand club du monde.
Mais le Real Madrid,
tu crois qu'il n'avait pas la pression? Tu crois que c'était pas un cadeau empoisonné? L'avantage avec Zidane, c'est qu'il est adoubé par tout le monde, par ses pairs, par les supporters, la France entière, par les consultants qui n'attendent que ça, par les journalistes. Parce que c'est l'évidence, après Deschamps, l'évidence, c'est Zidane, tout simplement. Et Zidane, il va relever le gant. Alors tu me dis qu'il n'aura pas de star. Moi, je pense que les footballeurs français contemporains, ils sont pas si mauvais que ça. Il n'y a pas que Deschamps qui obtient les résultats. C'est surtout les joueurs sur le terrain. Donc Zidane, il va être confronté au même problème que n'importe quel sélectionneur, à la seule différence que c'est peut-être le sélectionneur en France le plus légitime qu'il puisse exister depuis la nuit des temps. Donc, il va prendre son rôle s'il l'accepte, parce que il s'agira qu'il l'accepte. Il y a un an et demi pour ça. Il y a simplement ce timing. Moi, j'ai juste peur de ça, du timing, pendant un an et demi. Et si Zidane choisissait une autre voie, est-ce qu'il va être capable d'attendre un an et demi avant d'être sélectionneur? Non, savonner la planche, il n'y a pas grand monde qui lui savonnera. Très franchement, pas grand monde. Tout le monde l'attend. Donc, franchement, on est en train de faire un sujet qui va durer 20 minutes, mais quel cadeau empoisonné? Il n'y a pas de cadeau empoisonné, il n'y a même pas de cadeau, c'est juste légitime que Zidane devienne.
C'est légitime. Il l'a dit. Mais ça, il n'y a pas de débat là-dessus, Pascal. Évidemment.
Il a assumé, il assumera. Tu crois qu'il
est légitime pour lui?
Tu crois que quand il était joueur, il assumait pas? Demande à Roland qu'il a eu sous sa responsabilité.
Oui, sauf que quand tu es joueur, tu ne dépends que de toi. Quand tu es entraîneur, tu dépends du talent des autres. Tu l'as reçu quelque chose quand même.
Ce qu'a dit Genesio, 3 Ligues des Champions consécutives.
Et avec
le Real Madrid, c'est pas un petit club. T'as la pression comme nulle part ailleurs.
Non, c'est un grand club, justement, avec n'importe qui. T'es champion d'Europe avec le Real.
Je suis pas d'accord avec toi. Moi, je dis le seul petit caillou qu'il va avoir dans la chaussure, c'est si Deschamps prend l'Angleterre ou une grande sélection, mondiale. Voilà, c'est tout. Il va avoir un concurrent de plus parce que on peut pas, négliger le fait que Deschamps a obtenu des résultats.
On se demandera dans quelques instants si Zidane peut vraiment dire non à l'équipe de France, lui qui attend depuis 4 ans. Il n'attend pas que l'équipe de France, mais en partie l'équipe de France. Mais poursuivons un petit peu ce débat. Et tu dis le seul petit caillou dans sa chaussure. C'est si Didier Deschamps prend une autre sélection. Moi, j'ai l'impression qu'imaginons si Didier Deschamps refait une finale de Coupe du Monde, la 3e de suite. C'est un peu un cadeau empoisonné, non, Jérôme Pinault? Il devra faire aussi bien.
Moi, j'ai dit oui parce que pour moi, je suis comme énormément de personnes dans ce pays et dans le monde. Je suis absolument fan et si j'ai bien un mec qui est mon idole et que j'adore par-dessus tout, c'est lui. Et moi, j'ai envie qu'il reste là. Et en fait, je me dis que prendre cette sélection après. Une annonce très particulière quand même, l'annonce de l'arrêt de Deschamps. J'espère que la suite va être beaucoup plus simple et mieux organisée pour l'arrivée de Zizou que l'annonce est faite cette semaine. De deux, si Deschamps refait une finale de Coupe du Monde, comme tu l'as dit, ça peut être très compliqué de faire au moins aussi bien. Il a tout, je suis d'accord avec toi Simon, il est au-dessus. Il sera peut-être pas attaqué, mais on pourrait être déçu de Zinedine. Et moi, j'ai pas envie d'être déçu de Zinedine Zidane. J'ai envie qu'il reste là-haut. Et la preuve en est, c'est qu'avant Zidane, la France a quand même connu un énorme champion footballistiquement parlant. Une légende, Michel Platini. Il est devenu sélectionneur avec un groupe qui n'était peut-être pas à la hauteur de celui qui attend Zinedine. Mais il a été écorné
Il s'est planté avec
les. Il s'est planté et on l'a pas ménagé.
Et justement, du coup, Michel Platini n'est plus Michel Platini.
Mais
n'est
non,
plus,
mais ouais.
Bah dans les quoi. Simon, aujourd'hui, Michel Platini redevient la légende qu'il a été dans les mois et les années qui ont suivi son échec en équipe de France. Non, il a été très très bousculé.
La seule différence entre Platini et Zidane, c'est que Platini, quand il devient sélectionneur, il avait jamais entraîné Platini. C'est pas le cas de Zidane.
Et quand bien même, mais quand bien même ça marcherait pas, et quand bien même Deschamps il fait finale.
Mais moi j'ai pas envie que ça marche pas. Je préfère pas le voir que ça marche pas.
Même si Deschamps il sort au premier tour pour son dernier tournoi, ça restera le meilleur sélectionneur de l'histoire du football français.
Derrière,
il
y a pas
de
doute.
Il fait quart de finale, derrière il fait finale de l'Euro, il gagne la Coupe du Monde, il sort en huitième de l'Euro, il retourne en finale de Coupe du Monde et il va en demi de l'Euro. Comment tu veux concurrencer un palmarès comme ça? Mais Zidane, il a montré même tout au long de sa carrière, il était déjà une idole, ça ne lui a pas empêché de mettre un coup de tête à Materazzi, ça ne lui a pas empêché de prendre des rouges en Ligue
des Champions. Mais c'est pour ça qu'on l'aime aussi.
Mais déjà, donc il s'en fout en fait. Donc toute la façon dont tu comprends la question, un cadeau empoisonné, mais pourquoi? Pour qui? Lui, qu'est-ce que... Je pense que dans son logiciel, Zinedine Zidane, il se dit pas, ah si je me plante. Ça pourrait être. Et il va pas cogiter comme ça. Il en a envie.
Non, mais c'est sûr que lui va pas se dire si je me plante. Et lui, de toute façon, lui, il veut y aller.
Mais il y a des successions plus faciles que d'autres à prendre. Quand on prend une sélection, par exemple, Zidane, il prend une équipe de France un peu à l'agonie, qui gagne pas grand chose. C'est plus facile que de reprendre une équipe qui a tout gagné juste avant. Je pense que tous les entraîneurs le disent. Je vais aller voir Pascal.
Et puis il sera jugé.
Justement, j'ai un exemple comme ça. Je me rappelle de la. Alors, c'est pas les comparaisons valent ce qu'elles valent. La succession de Marc Liavremont, qui était l'entraîneur du 15 de France en 2011, il amène l'équipe de France en finale de la Coupe du Monde, et derrière, son successeur est déjà désigné, c'est Philippe Saint-André. Je me rappelle la tête de Philippe quand il a vu que l'équipe de France allait en finale et qu'elle a bien failli battre les All Blacks. Il était pas désespéré, mais très inquiet, parce qu'il se dit il va falloir que je tienne le rang, que je sois aussi bon que ça, alors qu'il avait une génération qui arrivait et qui était moins bonne que la précédente. Et il s'est dit, je vais au-devant des emmerdes, et effectivement il était au-devant des emmerdes, il les a pris.
Après, Marc Liavremont n'était pas une légende comme Zidane.
Non, voilà, c'est pour ça que je disais les comparaisons.
Mais tout Zidane qu'il est, là, on a quand même une réflexion très franco-française. C'est-à-dire que chez nous, oui, effectivement, on lui pardonnera tout, même si ça pouvait mal se passer. Ce que je pense pas, hein. Ça
pourrait faire pipi sur la table que Simon continuerait
vu de l'étranger. Zidane, pas Zidane, si ça va pas, il va se faire découper, toutes les gens qu'il est.
Pascal, justement là-dessus, moi j'ai pas envie des équipes. Est-ce que c'est plus facile de reprendre une équipe qui va mal ou une équipe qui va très bien et qui a déjà gagné? C'est ça aussi l'idée de cette question.
C'est à moi que tu parles?
Oui, c'est à toi que je parle. Ouais. Si j'ai le droit.
Hein. Je peux pas te le dire parce que repris des équipes qui allaient bien, ça te m'est jamais arrivé. C'est toujours des équipes qui allaient mal. Donc, tout ce que je peux te dire, c'est que si Zidane, par exemple, décidait de prendre une autre sélection que l'équipe de France, s'il décidait de prendre le Brésil, alors là, on lui pardonnerait pas. Donc, à la limite, il est presque coincé. Il est obligé de le faire, voilà. Il est obligé de prendre l'équipe de France. D'ailleurs, il le veut, vous l'avez tous dit. Non, franchement, c'est absolument naturel qu'il prenne l'équipe de France de football, et y compris si Deschamps gagne la prochaine Coupe du Monde. C'est comme ça. Il prendra l'équipe de France, il a toujours assumé, et il l'assumera très bien, parce qu'il aura affaire à de bonnes...
Mais au fond de lui, il a pas envie de reprendre une équipe de France.
Mais tu penses que Zidane, depuis qu'il est petit, il a la pression.
Il a envie de reprendre l'équipe.
Il aura la pression avec l'équipe de France comme n'importe quel sélectionneur, et encore plus lui. La seule différence avec d'autres sélectionneurs, peut-être, c'est que Zidane, la pression, il la gère bien. Parce que chaque fois, il réussit. Tu peux me dire ce que tu veux, il réussit. On parlait de la chatte à Dédé, ok. Mais Zidane, il réussit tout ce qu'il entreprend, donc il réussira. Il faut partir sur ce postulat-là, à mon avis.
On a déjà tous envie de le voir, évidemment, à la tête des Bleus, en tout cas, j'imagine, pour la plupart des suiveurs. Ah, bah, faut attendre un petit peu. Hein.
Deux ans, comme disait
Chirac. Un an et demi, les copains. 9h26.
Non, mais il y a quand même. Pardon, il y a quand même une chose de bien, c'est que on laisse tranquille Deschamps et tout d'un coup on vient sur les résultats de Deschamps. On arrête de parler de la pauvreté du jeu de Deschamps depuis l'annonce, ben depuis son annonce. Ça c'est bien. Donc Deschamps il va être aussi lui tranquille pendant un an et demi. Et surtout les joueurs qui
l'arrivée de Zizou, c'est qu'on va changer peut-être de façon de jouer en équipe de France. Et ça me
on verra.
File la banane.
On verra.
Ouais, et je sens que c'est encore un point de désaccord que tu as avec Pascal Duprat. Ils sont nombreux. 9h27, on revient dans quelques instants pour la suite de ce débat. On va rester sur cette idée de Zinedine Zidane qui est évidemment pressenti pour diriger les Bleus après 2026. Est-ce un cadeau empoisonné? Roland Courbis va venir nous rejoindre dans le studio RMC. À tout de suite.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
9h30 de retour dans les grandes gueules du sport avec ce matin Christophe Cessieux, Pascal Duprat, Jérôme Pinault, Simon Dutin. À partir de 10h, restez bien avec nous. On parlera de la nouvelle victoire de l'Olympique de Marseille. C'était hier soir sur la pelouse de Rennes. Le titre à 4 points du Paris Saint-Germain, seulement les Marseillais. Le titre, est-ce juste un fantasme? Et les GG ne sont pas d'accord. Ce sera le bras de fer. Mais restons un instant sur ce débat. Zinedine Zidane, est-ce que ce serait un cadeau empoisonné de prendre la succession de Didier Deschamps? Roland Courbis nous a rejoint dans le studio RMC. Salut mon Roland.
Bonjour à tous.
En 2025, on souhaite à chaque fois, chaque jour, bon anniversaire à Roland Courbis qui fête ses 20 ans sur RMC. Donc on est très heureux de t'avoir. Surtout que, tu as quand même fait débuter Zinedine Zidane. C'est même toi qui l'as appelé Zizou. C'est dire si tu le connais bien, évidemment. Je sais pas si l'appeler Zizou était un cadeau empoisonné. Mais est-ce que devenir sélectionneur, là, maintenant, après 2026, c'est un cadeau empoisonné? Est-ce que tu peux répondre à cette question? C'était un 2 contre 2 dans le studio RMC.
Ben déjà non, mais en ce qui concerne l'analyse, je vous trouve tous très compétent. J'espère l'être un peu et rajouter des petits détails qui n'ont pas, qui vous ont peut-être échappé. C'est que là, on n'est pas à un mois et demi d'une Coupe du Monde. On est à un an et demi d'une Coupe du Monde où on n'a même pas encore fait les matchs pour se qualifier. Et on est en train de parler de celui qui va remplacer le sélectionneur qui est aujourd'hui en route.
Oui, mais se qualifier avec 48 équipes, on a vu, les qualifications sont extrêmement
d'accord.
Simples.
D'accord. Non, mais ce sélectionneur, qui est Didier Deschamps, et qu'on applaudit par rapport à une carrière de joueur, d'entraîneur et de sélectionneur, une carrière extraordinaire. Mais c'est lui qui décide de tout, c'est pas le président, le patron de je sais pas, d'une société, c'est pas le président. C'est-à-dire que Didier Deschamps, il discute avec le Gret sans qu'il y ait de personnes à côté et il signe 4 ans. Didier Deschamps, aujourd'hui, à un an et demi de la Coupe du Monde, eh ben, il explique que, donc, il va, on n'appelle pas ça démissionner, ben, moi, je vois pas la différence. Il va donc démissionner dans un an et demi. Mais c'est lui qui décide de ça. J'en suis quand même
sûr. Le maître des horloges.
Mais est-ce que ça gêne ça pour l'équipe de France? Est-ce que ça c'est un problème pour les Bleus?
Eh ben je vais répondre à une question avec des questions. Aujourd'hui, les joueurs de l'équipe de France sont déjà au courant que ça ne sera plus Didier Deschamps. Donc dans les relations, pourquoi pas, le seront pareil, le seront meilleurs, le seront pas meilleurs. On va voir. Donc les joueurs maintenant, ils vont commencer à discuter qui sera le remplaçant de Didier Deschamps. Il semblerait qu'il y ait une évidence. Et quand je vois certains noms qui viennent aux côtés de Zizou, je me demande si on a vu le même problème. Moi, je serais à la tête de l'équipe de France. Je serais le patron au-dessus de Didier Deschamps. Je serais inquiet que Zizou trouve un club dans cette année et demie et qu'il ne puisse pas être disponible pour notre équipe de France. Nous, non. Nous, on essaye de voir si Bruno Genesio, Thierry Henry, ça pourrait pas être mieux que Zizou qui a gagné 3 Champions League avec le Real. Et pourquoi pas, ces gens-là aussi sont compétents, mais comparons ce qui est comparable, parce que ça n'a rien à voir avec Zinedine Zidane, dit Zizou.
Ok, alors ça m'amène à des questions, ce que tu viens de nous dire. Je ne sais pas si vous avez vu dans la presse, il a été contacté par RMC Sport, Noël Le Graët, l'ancien président de la Fédé, qui a dit « je ne sais pas si ça l'intéresse, Zinedine Zidane ». C'était peut-être de la provoque, mais ouais, est-ce qu'il y a...
Duga a dit le contraire. Hein.
Mais est-ce qu'il y a un doute, juste? Est-ce qu'il peut refuser les Bleus, Zinedine Zidane, Simon?
Il en a tout à fait le droit.
Mais est-ce que tu l'imagines? Est-ce qu'il y aurait des raisons cohérentes?
Personne ne l'imagine, parce que de toute façon, on a rappelé qu'il avait même l'occasion de s'exprimer, c'est rare, sur son désir un jour d'obtenir le poste, sans vouloir presser personne. Bon, Noël Le Graët, il n'avait pas vraiment brillé lorsqu'il avait raconté le coup de fil de Zidane, ou ce qu'il aurait dit Zidane allait l'appeler. Le cadeau empoisonné dans cette histoire, ça pourrait être, et tu vois, c'est la jurisprudence Laurent Blanc qui avait été annoncé 2 ans avant l'Euro 2012. Bon, est-ce que ça a eu un effet, une conséquence sur le fiasco de Naïsna? Tu vois, on en avait parlé en mai 2010. Bon, bah, carnage à la Coupe du Monde 2010, parce que les mecs n'avaient plus le moindre respect.
Après, c'était pas le même personnage clivant. Domenech,
je dis juste ça parce que si tu parles de cadeau empoisonné, le cadeau empoisonné, il serait peut-être, avec les débats qu'on fait, et si
ça a avancé, si à la Fédé quelqu'un avait le malheur de te dire oui, a priori ce sera lui, bon, parce que Philippe Diallo il est bien emmerdé, il a fait le tour des médias et il est obligé de reconnaître que oui, ça va être compliqué de faire
sans
le cadeau empoisonné, il serait pour l'équipe de France actuelle, pour Didier Deschamps dans la préparation de la future Coupe du Monde, parce que vous me dites qu'on va arrêter de parler du style de jeu et tout, mais en fait, on ne va parler que de sa succession, que du successeur, et le cadeau empoisonné, il pourrait être pour le football français, alors,
pour le coup,
avant qu'il prenne les rênes. Mais, et pour terminer, de toute façon, le sens de l'histoire, c'est ça. Dans tous les pays du monde, vous avez rappelé que Platini a été sélectionneur, Van Basten a été sélectionneur aux Pays-Bas,
Stoïkov a été
sélectionneur de la Bulgarie, Maradona a été sélectionneur de l'Argentine. Tu peux pas y couper tant que ces mecs-là ils sont pas passés à ce poste-là. Tu peux pas. Ça attise des fantasmes et t'as envie de les voir à ce poste-là.
Ouais, mais ces gens-là, on leur a pas dit un an et demi avant.
Non, je suis d'accord.
Qu'ils seraient peut-être les successeurs. Et la question que je vous pose, quand par exemple on parle aujourd'hui de Zizou, ok. Ben ça nous paraît être une évidence. Mais aujourd'hui, on va quand même se pencher aussi sur le Didier Deschamps d'aujourd'hui. C'est-à-dire le Didier Deschamps qui vient d'annoncer que dans un an et demi, il nous dit au revoir, merci, j'ai fait une carrière extraordinaire. Attends, excuse-moi. Dans les prochains matchs, et à commencer par le match aller-retour contre la Croatie, on va, disons, supporter pendant un an et demi la comparaison entre Didier Deschamps, qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il aurait dû faire, qu'est-ce qu'aurait fait Zizou dans telle ou telle composition d'équipe. Didier Deschamps lui-même, est-ce qu'il va faire les mêmes compositions d'équipe aussi prudentes et tout, sachant que maintenant il a eu le courage, le culot, appelons ça ce qu'on veut, d'annoncer que dans un an et demi il disparaissait. Est-ce que ça sera le même Didier Deschamps? La relation avec Mbappé, la relation d'un éventuel retour de Griezmann, est-ce que tout ça c'est possible avec Didier qui vient de nous annoncer que dans un an et demi il démissionnait? Okay. Alors on me dit non, il démissionne pas, c'est la fin de son contrat. Eh ben, on joue sur les mots. Dans un an et demi, il démissionne.
Les GG répondent.
Roland, Pascal. Dieu sait si j'apprécie ta pertinence, ok, depuis toujours. Mais je suis pas d'accord avec toi. Il démissionne pas en fait, Didier Deschamps. Il annonce de manière anticipée qu'il ne reconduira pas son contrat. Voilà. Laisse-moi terminer, Roland.
Ça, c'est pas une démission. C'est pas une démission. C'est une fin de contrat.
Non. En fait, il est en fin de contrat, tout simplement, mais il l'annonce de manière prématurée. Ouais,
mais
Pourquoi il l'annonce?
Il te dit un an et demi avant qu'il ne prolongera pas. Donc il ouvre la porte à tout ça.
Il annonce simplement. Moi, je pense que pour lui, c'est plus insupportable que vous ne le croyez de se faire matraquer toutes les cinq minutes. Donc il en a marre ça. Il se dit, je vais acheter un peu de compassion. D'ailleurs, c'est ce qu'on commence à voir, puisqu'on insiste beaucoup sur le fait que c'est le plus grand sélectionneur de l'histoire. J'avais pas souvent entendu ça, mais voilà qu'on l'entend beaucoup maintenant. Donc il s'achète un peu de mansuétude de la part de tous ceux qui le défoncent et ça lui permettra d'être encore plus motivé qu'il ne l'est et qu'il ne l'a jamais été pour bien gérer les qualifications de la Coupe du Monde et nous l'espérons tous pour faire un excellent, voire un superbe résultat comme clap de fin à la Coupe du Monde, à la prochaine Coupe du Monde. Donc je pense que, en fait, Deschamps, il a annoncé qu'il arrêtait parce qu'il veut être tranquille aussi. Et je pense que les joueurs sélectionnés vont aussi, par retour, vont aussi tout lui donner.
Donc tu penses que tu as le même Didier Deschamps pendant un an et demi. Le Didier Deschamps qui a annoncé que dans un an et demi, ce n'était plus le sélectionneur, ça va être le même Didier Deschamps dans ses choix, dans son comportement.
Oui, encore plus motivé, Roland. Encore plus motivé.
Mais c'est pas parce qu'on est motivé qu'on réussit.
Encore plus précautionneux. Plus en phase avec ce qu'il pense du football.
Je te mets à la place. C'est peut-être pas évident ce que je vais te proposer. Je te mets à la place du président de la Fédé.
Mais c'est ça, le chef.
Toi, dans l'intérêt de ton équipe de France, de notre pays, la meilleure solution, c'est Didier Deschamps qui vient de nous annoncer un an et demi avant qu'il ne sera plus l'entraîneur ni le sélectionneur de l'équipe de France. excuse-moi, j'ai un grand point d'interrogation. La réponse, je ne l'ai pas. Mais en tout cas, je suis pas sûr que cette solution soit la bonne pour notre équipe de France.
Ça aurait été quoi la bonne solution alors pour toi, Roland? Ça aurait été qu'ils disent bon, mais je m'en vais maintenant ou quoi?
Qu'il y ait déjà une consultation pour moi avec le
voilà. Mais qu'après une discussion avec Didier, c'est vrai que Didier, il est peut-être bien ou mal habitué, je sais pas. Mais quand il discute avec Le Graët en tête à tête, sans que le Comex soit au courant, et qu'il signe 4 ans, eh ben tout le monde dit bravo, et moi je dis bravo Didier d'en arriver à avoir cette
maîtrisée,
cette puissance.
Il est au-dessus de l'institution.
Aujourd'hui, on parle de Zizou, on parle de Zizou, on parle de Didier. Je pense que l'invité numéro 1 pour demander s'il pense, lui, avec ses compétences et sa responsabilité d'être patron de notre football français, est-ce que la meilleure solution pour notre équipe de France, Mbappé, Griezmann, machin, c'est Didier Deschamps, dans un an et demi, qu'il arrête. Est-ce que c'est ça la meilleure solution? Eh bien, on écoutera le patron de notre football. Hein.
Jérôme Pinault.
Mais c'est ça. Cette annonce-là, elle est significative de la non-maîtrise du chef d'entreprise, comme l'appelle Roland. C'est le chef, c'est le président. Quand l'annonce, elle est faite pendant une promotion des
Blaises
jaunes.
Il est là pour entériner les choses.
Qu'est-ce qu'il n'a pas maîtrisé, le président de la Fédé? Moi, je suis désolé, mais je comprends pas vos arguments. Là,
tu penses que Diallo, il s'est mis d'accord avec Didier Deschamps en disant maintenant, un an et demi, t'annonces que ce sera plus
tard. Il le dit, je l'ai lu, il l'a vu avant les fêtes.
Et donc,
voilà, ils sont vus et Deschamps, il a dit, j'arrête après la Coupe du Monde.
Oui, mais c'est une chose. Pour pas que Diallo donne l'impression d'être un faire-valoir, tu organises une conférence de presse à la Fédé et tu fais l'annonce
et surtout après quand tu dis être scruté et Simon le dit maintenant la suite, moi je pense que là en disant ça il s'est quand même lui-même un peu réexposé parce que il y aura toujours des gens qui vont critiquer Deschamps et peut-être qu'encore plus là en sachant que ça va être bientôt dans un an et demi, donc c'est pas bientôt, quelqu'un d'autre, et ce quelqu'un d'autre sera certainement le dieu de tous. Ça va pas être simple pendant un an et demi, il va falloir qu'il subisse ça quand même.
Et c'est une chose de savoir, Pascal, ça c'est pour te répondre, c'est une chose d'avoir averti son président qu'il arrêterait après 2026 et de le dire sans que quasiment personne ne soit au courant une ou deux semaines après, en tout cas début janvier et à un an et demi de la Coupe du Monde. C'est deux choses évidemment différentes. Il y a Vincent qui veut participer à notre débat. Salut Vincent.
Bonjour les GG, meilleurs vœux et bon anniversaire à Roland.
Belle année à toi mon cher Vincent.
Et merci.
Alors, notre débat, tu en penses quoi? Cadeau empoisonné ou pas? Tu veux revenir là-dessus ou sur autre chose? Il s'est dit beaucoup de choses.
Le cadeau empoisonné, pour moi, ce serait plutôt si un autre sélectionneur qui se pointe à la place de Zidane. Parce que le mec, il va passer après Deschamps et j'imagine tout de suite le débat des GG du sport Jean-Christophe Drouet. Est-ce que Pierre-Paul Jacques est plus légitime que Zidane pour remplacer Didier Deschamps? Déjà, c'est le débat des GG, vous préparez les GG au cas où c'est cadeau, je vous l'offre. Mais derrière, le cadeau empoisonné, absolument pas. Zidane a tout gagné en club, il a tout gagné au plus grand club du monde. J'entendais Christophe à un moment faire référence aux stars. Oui, alors quand on gère un vestiaire comme le Real de Madrid, quand on arrive à mettre sur le banc tout Cristiano Ronaldo, ce qu'aucun autre entraîneur avait fait à part Sir Alex Ferguson à ses débuts au United, je pense qu'on peut avoir une certaine légitimité par rapport au traitement et à comment gérer des stars. Après, on aura une réponse deux ans après en 2028 avec l'Euro. Si à l'Euro il fait du beau jeu, il le gagne. Ce sera la seule compétition que Didier Deschamps n'a pas gagnée. Après, il restera le mondial à faire. Mais tant qu'on ne le verra pas sur les résultats, on peut pas juger. On peut pas juger si c'est empoisonné ou non. On a quand même des jeunes qui arrivent dans des clubs. On a Lenny Leroy au United, on a Kenson Thuram à la Juventus de Turin, on a Désiré Doué, Bradley Barcola qui vont commencer et continuer à grandir au PSG, on a Quentin Marlin à l'OM qui commence à montrer des choses intéressantes. Il y a plusieurs jeunes joueurs qui sont en train de percer. Imagine ces jeunes joueurs avec les quelques trentenaires qui va rester. J'oublie Lucas Chevalier-Ali en gardien de but. Les gars, il y a quand même du matos pour arriver.
Il y a du matos, Vincent, aucun problème, il y a du matos, mais Didier Deschamps, il reprend avec une génération qui est Griezmann, Varane, Pogba, je veux bien Quentin Merlin, je veux bien les
Yoyo. Attention,
Griezmann, c'est personne hein, quand Deschamps reprend l'équipe de France. Hein, c'est Deschamps qui l'installe, qui dit je vais en faire un mec que personne ne le connaît, je joue à la Real Sociedad. C'est quand même à mettre à son crédit. C'est pas,
bien sûr.
Je vais m'appuyer sur la star du football français.
Mais il a quelques talents que n'aura peut-être pas Zinedine Zidane, mais ça, ce sera confirmé dans les prochaines années. Merci beaucoup, Vincent, d'avoir composé le 32-16 et d'avoir été avec nous ce matin, un habitué de l'émission. On remercie Roland Courbis. Moïse d'avoir aussi été dans les grandes gueules du sport. Très rapidement, mon cher Roland.
Non, que je vous donne une idée d'une question qu'on se posera dans les semaines à venir et qu'on posera au président et au patron de notre football français. Est-ce que ça serait une bonne ou une mauvaise chose de dire d'ores et déjà, dans un an et demi, qui sera le sélectionneur à la place de Didier qui vient, donc non pas de démissionner, mais de nous annoncer qu'il ne serait plus là.
Et ben
mais
voilà.
C'est pas une démission, ça.
On vérifiera tout ça si Philippe Diallo annonce avant, même si c'est pas forcément l'objectif. Hein. Visiblement, il voudrait plutôt attendre un peu plus tard pour annoncer le nom du futur sélectionneur. Allez, 9h45, on se retrouve dans quelques instants. Le bras de fer des GG, ce sera à 10h avec l'Olympique de Marseille. Mais tout de suite, on s'en fout pas. Pas mal d'informations à vous donner, avec notamment le Stade Toulousain qui s'est imposé en Afrique du Sud hier. À tout de suite.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
9h48, de retour dans les grandes gueules du sport avec Pascal Duprat, Jérôme Pinault, Christophe Cessieux, Simon Dutin ce matin. À partir de 10h, on parlera de l'Olympique de Marseille. Le titre en Ligue 1, évidemment. Est-ce juste un fantasme? Les GG ne sont pas d'accord. Vous pouvez réagir, évidemment, supporters marseillais. Au 32-16, un point sur l'Open d'Australie avec un Français bien parti pour se qualifier pour le deuxième tour. Eric Salut en direct de Melbourne.
Oui, Hugo Gaston qui mène deux manches à une face à Omar Chasika, une wildcard australienne, 6-2, 3-6, 6-2. On est à un partout dans la quatrième manche. Ce match se déroule sur le petit court 3. C'est une petite cuvette, j'adore. C'est l'un des plus beaux courts des quatre grands chelems réunis. Je vous assure.
Tu nous le recommandes, on fera le voyage un jour avec toi.
Venez, venez.
Grand plaisir dans les grandes gueules.
24 heures d'avion, les gars.
Un petit peu plus tôt, cette nuit, notre premier Français qualifié pour le deuxième tour, c'est Arthur Fils, qui a battu Otto Virtanen. Mais ça a été compliqué, il a perdu le premier set. Je vous propose de l'écouter, Arthur Fils, au micro d'Eric Salio.
C'est sûr, pendant un set et demi, c'était pas fameux. Quoique le premier set, c'était pas mal, mais le deuxième, vraiment pas très bon. Après, voilà, faut trouver une façon de jouer et puis trouver une voie pour gagner. Donc très content d'avoir réussi à trouver ça, fin du second et puis troisième aussi. Et puis après, quand on se sent bien et qu'on passe devant, c'est forcément différent. Si je panique, c'est sûr que j'en prends trois. Je dois juste rien dire et puis continuer à bien bosser.
Et voilà, qualification d'Arthur Fils, à tout à l'heure. Eric Salio. Tout de suite, on s'en fout pas.
Le zapping des grandes gueules du sport.
Des informations à vous donner, à vous de me dire si ça vous intéresse ou non. Si tout le monde s'en fout, on zappe l'information. La première, c'est le Stade Toulousain qui s'impose en Afrique du Sud hier. On s'en fout pas. Christophe Cessieux.
Je ne m'en fous pas du tout.
Jérôme Pinault.
Ah, je m'en fous pas.
Pascal Duprat.
Je ne m'en fous pas.
Simon Dutin.
Je ne m'en fous pas.
Pour le premier match de son histoire en Afrique du Sud, le Stade Toulousain a donc signé une victoire historique, puisque c'était le premier match à Durban, contre les Sharks, 8-20. Alors, ils étaient déjà qualifiés pour les huitièmes de finale de la compétition, les Toulousains, mais ils voulaient prendre la première place de la poule, ce qui leur permet évidemment une suite de compétitions un peu moins difficile. Une rencontre disputée sous une température de 28 degrés, ça va, mais le taux d'humidité, 80% au cœur de l'été sud-africain, et forcément, ça c'était compliqué. Antoine Dupont.
Le sentiment est mitigé. On savait que ça serait très compliqué. Il y a évidemment des regrets. Oui, bien sûr que ça a joué. Ça a été très dur physiquement, dû aux conditions. On n'a jamais pu mettre notre jeu en place comme on le voulait. C'était très compliqué, mais bon, on a quand même gagné. Il faut arriver à se satisfaire de ça.
Voilà, c'était compliqué, mais on a gagné, Christophe.
Oui, mais c'est une victoire à la Pyrrhus pour le Stade Toulousain parce qu'il manque ce bonus offensif. Alors évidemment, pas facile d'aller gagner en Afrique du Sud. Il n'y a que très peu d'équipes européennes qui ont réussi à le faire. Toulouse a gagné, mais n'a pas ce bonus offensif. Alors que dans le même temps, l'UBB a mis une volée à Exeter. Et du coup, ils sont quasiment assurés de terminer premier de poule et donc d'avoir un parcours incroyable derrière.
Huitième,
quart de finale, demi-finale à la maison. Alors que Toulouse recevra sans doute en huitième, mais à partir des quarts, ils devront aller à l'extérieur. Et c'est tout ce dont ils ne voulaient pas. Donc c'est une victoire compliquée pour eux. Juste un tout petit mot, puisqu'hier on en parlait, la position de Romain Tamac, hein, il était très attendu sur ce match. Moi, j'ai pas trouvé qu'il avait fait un match extraordinaire, alors que Thomas Ramos, qui jouait à l'arrière, lui a été époustouflant, Mathieu Jalibert avec l'UBB. Donc c'était marrant parce qu'on voyait les trois postulants au poste de numéro 10 qui jouent en même temps.
La semaine prochaine.
Oui,
il prépare déjà son tournoi des
Six Nations, évidemment. C'est quand il reprend quand même après une longue blessure.
Oui, non, mais bien sûr. Attends, ouais, Pascal, je pense qu'il lui faut du temps, mais je suis pas sûr qu'il soit le personnage idéal pour ce tournoi. Il faut lui laisser du temps de récupérer et de redevenir aussi performant qu'il l'était.
J'annonce. Un petit mot sur le match d'hier, pardon.
Vas-y, rapide.
Les Toulousains, ils ont cabossé les Sudaf devant. Franchement, c'était un match où il y avait de l'impact. Là où les Sudaves sont très bons, ils se sont fait prendre à leur propre piège. Costaud comme jamais les Toulousains, incroyable.
Je rappelle que l'UBB, tu l'as dit, a gagné hier. Toulouse, le Stade Français et Castres. Donc bravo en tout cas à nos clubs français sur la scène, j'allais dire, européenne.
C'est la Coupe de France.
Deuxième information dans le zapping des GG à vous donner, c'est l'affaire Dani Olmo qui secoue l'Espagne. Et j'avais envie de vous en parler ce matin. On s'en fout, on s'en fout pas. Jérôme Pinault.
Non, je m'en fous absolument pas.
Simon Dutin.
Je m'en fous pas.
Pascal Duprat.
Pareil, je m'en fous pas.
Okay.
Moi, je m'en fous.
Okay.
Je vais vous laisser.
Alors, Dani Olmo va rester un joueur du FC Barcelone. C'est l'une des stars des Blaugrana qui était suspendue à la décision du Conseil supérieur du sport espagnol, enregistrée l'été dernier au sein de l'effectif barcelonais. L'international espagnol ne pouvait figurer dans l'effectif au-delà du 31 décembre dernier. Finalement, tout est bien qui finit bien. Il a été enregistré. Mais il y a un gros problème parce que l'affaire Dani Olmo est en train de devenir une affaire d'État. Edgar Grolon, notre correspondant en Espagne, est avec nous. Salut Edgar.
Salut les GG.
Salut Edgar. Alors tu vas tout nous expliquer pourquoi cette affaire fait scandale chez toi en Espagne.
Cet été, Dani Olmo, recruté 55 millions d'euros, ne peut pas être inscrit en raison du fair play financier espagnol. Le Barça avait dépassé la limite de salaire autorisée. Miracle, il est enregistré grâce notamment à 80% du salaire du blessé de longue date, Andreas Christensen. Mais tu l'as dit, fin décembre, ce premier contrat se termine. Que fait le Barça ? Il signe un accord dans l'urgence, 100 millions d'euros contre l'exploitation des places VIP du nouveau Camp Nou. Sauf que ça ne suffit pas. La justice espagnole refuse l'inscription de Dani Olmo. Le Barça ne lâche pas l'affaire, demande une nouvelle licence, continue ses efforts administratifs. Problème, la Liga et la Fédé ne veulent rien entendre et il y a un autre obstacle, une règle qui empêche les clubs d'inscrire en fait puis de réinscrire un même joueur deux fois dans la même saison. Dernière chance pour le Barça, il adresse un recours très détaillé de 52 pages au Conseil supérieur des sports espagnols, le CSD, organisme qui dépend du gouvernement. Contre la volonté de la Liga, de la Fédé et de la justice, le CSD autorise Dani Olmo à jouer à titre conservatoire et c'est pour ça que ça devient une affaire d'État.
Et donc le football espagnol crée l'injustice.
Oui, à commencer par la Liga elle-même qui s'est dite en désaccord absolu avec cette autorisation. Son président Javier Tebas voit une décision politique. Il déclare même que le CSD a pour objectif de démanteler les systèmes qui marchent en Liga. Beaucoup de clubs ont l'impression qu'il y a eu une application inégale des règles. En fait, c'est le sentiment, par exemple, de José María del Nido Carrasco, le président du FC Séville.
Nous ressentons une très grande honte face à la décision du CSD parce qu'il change les règles du jeu que nous avons tous. Ici, dans ce pays, il semble que si vous êtes le Barça ou le Real Madrid, les règles s'appliquent différemment pour vous. C'est très très dangereux et c'est un manque de respect pour tous les acteurs du football et pour nos supporters.
Quand on demande à l'entraîneur de l'Atlético, Diego Simeone, si la rivalité face au Barça et au Real est équitable dans ces conditions, sa réponse est très très courte.
Nada, mejor me cacho. Ciao.
Il vaut mieux que je me taise. Ciao. Ces derniers jours, le silence d'un club a été souligné par certains acteurs du foot espagnol, le silence du Real Madrid.
Ça sent le petit arrangement entre amis tout de même, cette histoire. C'est quoi votre regard?
C'est très pur. Moi, mon regard là-dessus, c'est... Il y a des clubs et des institutions au-dessus des lois, tout simplement. Le fair play financier est là pour légiférer notamment le sport, mais aussi le business, l'économie d'un système. Et là, ce que vient de faire cette décision que vient de prendre l'État espagnol, c'est bafouer en fait les règles du sport lui-même. Donc moi, je me dis revenu à mon sport à moi, demain... N'importe quel coureur ou équipe peut tricher, passer au-dessus des règles. Et on va
parce que tu penses que l'US Postal était au-dessus des règles à l'époque
Là, il triche pas, si tu veux. Il joue avec le règlement, quand même, Pascal.
Non, c'est pas le Barça qui joue avec les règlements. C'est les instances qui, comment dire, bafouent les règlements.
Ah non,
moi, je vais même plus loin dans la remarque. C'est que ça pénalise le football européen. Parce que ce qui se passe en Espagne, ça se passe pas ailleurs. Et ça se passe pas notamment en France. Parce qu'on a un organe financier en France qui est souverain.
Exactement.
Qui s'appelle la DNCG. Ouais. Et qui traite pas du cas par cas, qui fait en sorte qu'il y ait une équité financière. Voilà, donc ça pénalise aussi.
On verra à l'avenir, mais ce cas-là peut faire cas de jurisprudence et ça risque, comme tu le dis, de pénaliser et de créer des tensions et de pénaliser le football européen, ça c'est sûr.
Merci Edgar Grolot d'avoir été avec nous en direct d'Espagne. Juste cette information à vous donner, c'était hier après-midi, mais c'est important de vous le dire, c'est Clément Noël qui a remporté le slalom d'Adel Boden, c'est le troisième de la saison.
Ça, on n'en parle pas alors.
Clément Noël, surtout le slalom géant, c'est dans quelques instants à Adel Boden et vous allez suivre tout ça sur RMC. Restez bien avec nous, l'Olympique de Marseille, le titre, est-ce que c'est juste un fantasme? À tout de suite.
RMC jusqu'à midi,
les grandes gueules du sport.